Donc moi, je vais parler de deux choses, deux expériences. Alors c'est un peu comme Xavier, on a une agence qui est légèrement plus importante, mais grosso modo, on est toujours à la marge, et à notre échelle, à la marge et un peu à côté de ce que peuvent être les grosses machines de l'aménagement et de l'architecture, avec une économie qui est toujours relativement précaire. Donc c'est toujours des expériences relativement modestes, parce que je pense qu'on avance pas à pas, malgré tout, face à des questions qu'ils ont posées, qui sont des questions pas forcément nouvelles, mais en tous les cas inédites dans la discipline qui est la nôtre, et qui peuvent être l'occasion de justement parler. J'ai beaucoup aimé les deux introductions, celle de Thierry et du monsieur dont j'ai oublié le nom, mais qui était très très bien sur cette question du lien de l'expertise et du rapport entre. De la manière dont finalement les connaissances peuvent être plus ou moins mises en œuvre selon la qualité des intervenants et des liens qu'ils arrivent à établir entre eux. Moi, je pense que c'est un des enjeux majeurs aujourd'hui, pas simplement pour les architectes, je pense que c'est un enjeu pour les ingénieurs, c'est un enjeu pour toutes les disciplines qui, de près ou de loin, ont à voir avec l'aménagement, quelles que soient les formations, de comment on travaille avec les autres et comment on s'ouvre et comment on déplace un petit peu les curseurs. Donc, nous, on travaille pas mal sur ces questions. La première, je vous montrerai deux expériences. Enfin, je vous parle de deux expériences. Une qui est sur la question du rapport entre l'urbanisation et les risques, la question des risques, où la question environnementale est très présente. En l'occurrence, là, il s'agira d'inondations. Et la deuxième chose sur la fabrication, la question de comment on suscite des modes de fabrication, de matière, de matérialité, en fait, différents de ceux des fabrication de masse. Alors, j'avais cette image au début que je voulais montrer, mais parce que juste comme introduction, parce que je partage, c'est pas un hasard, merci Thierry de cette invitation. En fait, je partage un certain nombre d'éléments de diagnostic que tu fais. C'est-à-dire, je pense, moi, je ne parle pas de développement durable, j'en parle plus exactement, parce qu'il y a 15 ans, on s'essayait en fait à essayer de redéfinir les choses. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu trop de mensonges quelque part pour qu'on continue à en parler sereinement. Alors, si on peut en parler, mais en tous les cas, il faut savoir où on met les bords. Je ne fais pas d'éco-quartier et je le revendique, en fait. Donc, ça me coûte de la commande, mais l'agence ne va pas si mal. Et je pense qu'on peut, en fait, développer un certain nombre de travaux sans forcément avoir le label et l'effet de com' que procure l'éco-quartier avec tout ce que ça peut supporter d'effets limites. Je vous montre juste cette image, c'est une pub d'EDF, faisant le choix d'un monde sans CO2. Alors j'aime bien montrer cette image, mais c'est trop caricatural, c'est trop facile, c'est presque trop drôle, parce qu'on peut les assassiner d'une manière... Donc le choix d'un monde sans CO2, donc vous avez remarqué tous que c'est une maison toute seule, donc c'est une famille toute seule au monde, il n'y a plus de ville, il n'y a plus d'urbains, on n'est pas 6 ou 7 milliards, on est 1, bon, ok, donc c'est vrai que ça produit tout de suite beaucoup moins de CO2. Vous remarquez, alors plus attentivement, hormis le fait que c'est la dame évidemment qui vient de ramasser le linge, hein, ça, plus attentivement, il n'y a pas de route, aucune route, aucun élément d'infrastructure, même pas un chemin, même pas la trace d'un chemin, ce qui est quand même difficile, hein, un paysage en France, en France ou j'imagine en France ou ailleurs, mais sans route en Europe, c'est quand même difficile, au Canada, d'accord, en France c'est quand même compliqué. Donc, les gens, non seulement ils sont tout seuls, mais ils n'ont pas de lien. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'autres, éventuellement, quelque part, qui existeraient à 3 km derrière la colline, etc. Et si vous regardez encore plus finement la végétation, bon, c'est une pelouse un peu de moyenne montagne, mais néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'elle n'est pas pâturée. Il n'y a pas de traces de structure agricole très claire. Donc, ce qu'on voit, c'est un paysage de friches, de délaissés agricoles. Donc, il n'y a pas non plus d'agriculture. Donc c'est vrai que pas d'agriculture, pas de réseau et pas de ville, forcément, ça fait moins de CO2. Mais bon, après, je ne sais pas comment on vit là-dedans. Et puis évidemment, les concurrents qui ne sont pas en reste et qui ne ratent jamais l'occasion de lire les différentes statistiques pour en faire des pubs plus ou moins. Évidemment, ils sont forcément des propositions innovantes et patentes, etc., etc. Donc moi, on reste quand même très prudent par rapport à ces effets de com', effectivement. Et c'est aussi pour ça que que je comme beaucoup de mes collègues, enfin pas comme beaucoup de mes collègues justement, comme certains de mes collègues, donc Xavier, mais je suis prudent sur ce recours systématique au mot durable. Alors je veux parler, c'est parce que c'est pas pour parler des projets qu'on fait, parce que c'est quand même un prétexte, parce que nous, notre matière à penser, c'est quand même les projets. Je le dis, c'est-à-dire que pour l'architecte, soit il fait des projets parce qu'il y a une commande, ça fait vivre l'agence, ce qui est aussi le cas, mais l'inventivité, la réflexion, la recherche, on pourrait dire, et le développement de différentes solutions, une des bases, il y a les lectures, évidemment, mais il y a aussi le projet, il y a l'enseignement, j'enseigne, comme vous aviez. Ça fait partie, disons, de l'outil d'expérimentation et de recherche appliquée. Sur ce site, c'est un site à Nantes, là vous voyez l'île de Nantes qui est célèbre, la ville de Nantes historique ici, avec ses anciennes îles qui ont été comblées progressivement au 18e. Et ici tout un secteur qui s'appelle le secteur des îles, il y avait des îles avant, c'est-à-dire ça faisait partie du bassin, on voit d'ailleurs, ça c'est la Sèvre qui arrive, et on voit que là, à l'emplacement de cette route, il y a encore des endroits un peu humides, là, inondables, et qui fait que la Loire, en fait, elle était évidemment de là à là, quoi, du rocher ici jusqu'à la plaine. Elle prenait sa place, il n'y a pas si longtemps, hein, je suis en train de parler de 150 ans, et sur les cartes de la Major, c'est encore ça. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas les Romains. Hein, et aujourd'hui, tout ça, ça a été constitué, en fait, il y a quelques villages là, qui sont deux positions un petit peu plus hautes, tout est inondable, ou presque, au bord, hein. Et il y a tout un tas d'activités petit à petit qui se sont installées, qui sont des activités essentiellement commerciales, puis artisanales, de type suburbain, c'est-à-dire des endroits où on va en voiture, on se garde sur un parking, on va au centre Leclerc, ensuite on prend sa voiture, on va au parking qui est à 500 mètres, on va à la halle aux chaussures, ensuite on prend sa voiture, on va au parking qui est à 300 mètres, et on va à Leroy Merlin. Donc, et ensuite on rentre chez soi. Donc c'est ce type-là de commerce, avec une surface asphaltée qui est absolument considérable. Et on voit, comme on le voit, c'est au centre de Nantes, c'est-à-dire on est juste à côté, la gare est pas loin, on est au centre de l'agglomération. Et la question qui nous était posée, c'est comment on peut urbaniser, c'est-à-dire amener, redéployer le commerce sous des formes plus compactes, plus urbaines en quelque sorte, et apporter de nouveaux logements en centre-ville, où on est proche des services, quoi, c'est la question, de manière à avoir une offre complémentaire de centres métropolitains. Nantes, il y a une très forte croissance démographique, qui sont un peu l'alternative à ce qui se passe aujourd'hui, qui est quand même un émiettement progressif de zones pavillonnaires qui sont un peu partout sur les terres agricoles. C'est aussi une terre agricole très riche autour, hein, pas l'ensemble de Nantes, mais tout autour. Donc si on veut, pour avoir moins de consommation de terres agricoles, ou être plus près des services, qui fait qu'au lieu d'avoir deux voitures, on n'a qu'une voiture. Par exemple, on n'a pas de voiture à Paris, puis on fait du vélo, sachant que c'est à Nantes et que c'est plat. C'est donc très facile de se déplacer à vélo. En gros, il faut quand même qu'il y ait une offre de centre-ville avec des modes d'habiter qui sont un peu différents. Quoi. C'est pas tout le monde dans des immeubles hyper minéraux. Donc nous, on proposait à très grande échelle, c'est l'échelle de l'estuaire. Le site est ici. On a réfléchi au fait que toute cette zone-là, finalement, quand on voit les zones vertes, là, on voit que sur la rive gauche, on a une espèce de continuité potentielle ici, dont le seul obstacle est notre zone, là, qui est très urbanisée, comme ça, et que de l'autre côté, on est plutôt sur des radiales avec la vallée de l'Erdre, donc qui ouvre sur le plateau qui est derrière, mais que grosso modo, on aurait pu s'insérer, on aurait pu faire de ce site un lieu un peu ville-nature, ça c'est des références que tout le monde connaît, mais Copenhague ou Helsinki, c'est-à-dire à un moment donné, qui ne sont pas des villes vertueuses, hein. Moi je précise, c'est-à-dire que c'est quand même des villes qui ont tartiné, comme c'est pas permis, des années 50 aux années 80, on va dire, mais sauf que elles sont légèrement plus vives que nous, c'est-à-dire que dans les années 90, quand on a commencé à comprendre il y avait un problème, elles ont agi, contrairement à nous qui n'avons rien fait, si ce n'est parler et faire de la com, comme EDF. Mais donc la différence, elle est là, elle n'est pas tellement dans le modèle urbain, qui est aussi un modèle d'extension pavillonnaire suburbain, où la voiture a beaucoup de place, etc., aussi bien dans les deux capitales nordiques, mais qui est plutôt qu'il y a eu un vrai virage dans les années 90, ça fait quand même 25 ans. Donc ils ont 25 ans d'avance, on va dire, par rapport à nous. Ils ont un gros retard à rattraper, nous aussi, mais il y a quand même une différence, qui permettait d'avoir quand même, parce que tout le monde, la question de l'offre résidentielle est pour moi une question importante. On peut plus aujourd'hui, on n'est plus, je pense, dans des doctrines qui diraient que la ville, forcément, c'est forcément la Cité Jardin, ou la ville, c'est forcément le pavillon, ou la ville, c'est forcément la ville compacte, ou la ville, c'est forcément les immeubles, etc. En fait, c'est pas ça. La question, c'est d'arriver à avoir une diversité en fonction des situations, mais qui puisse correspondre aussi à des désirs différents, quoi. À une certaine diversité de désirs. Alors, juste parce qu'on se sert du coup d'exemple, c'est une manière un peu pour faire le lien, d'exemple que moi j'aime bien cet exemple, parce que c'est pas tellement la question de la forme. Donc, ça c'est Helsinki, un quartier nouveau, là vous voyez quand même 30 000 habitants, 7 000 emplois, 12 000 étudiants, nouveau, mais aussi Natura 2000 sur 1 000 hectares, etc. Donc, et 2 universités. Donc, c'est pas tant la question de la forme que le processus. Le fait que, par exemple, dans ce projet, les 300 hectares d'agriculture, ils font partie du projet. Le Natura 2000, 2 000 hectares avec les oiseaux migrateurs, etc., fait partie du projet. Et donc, ce n'est pas la ville contre la nature, c'est la ville avec la nature, où le lien, je dirais, d'expertise, et là, on est au cœur de ce qui a été introduit tout à l'heure, est productif. C'est-à-dire qu'en gros, le projet de transformation d'un territoire dont on sait pourquoi il advient. En fait, en gros, il advient parce qu'on arrête de tartiner toute la forêt autour avec des maisons. Donc, il faut construire dans le centre-ville, à côté des services, des universités, de l'opéra, des ports, de la gare, etc., du tramway. On essaie de construire, de recentrer avec une densité à la parcelle un petit peu plus forte. Ce qui ne veut pas dire qu'on va obliger les gens à habiter dans des milieux complètement, je dirais, comme s'ils habitaient dans le centre de Barcelone, dans la trame de Cerdà. Ce qui est très bien aussi, mais en tous les cas, ce n'est pas forcément ce qui convient là sur le site. Et donc, comment on fabrique finalement une ville dense, relativement dense, mais qui a un lien à la nature privilégié? On le fait de manière interactive avec les gens qui s'occupent de l'environnement, avec les gens qui s'occupent des oiseaux, avec les biologistes, avec les écologues, etc., avec les agriculteurs, de manière à ce que les contraintes des uns et des autres s'enrichissent et non pas se paralysent, quoi. Ce qui est quand même une manière, c'est au-delà de la forme, vous voyez, c'est une manière de penser. C'est une question de cerveau, quoi. D'ailleurs, je regarde l'autre qui parle d'autre chose de moi et j'arrête de penser qu'il va m'empêcher de faire, mais j'essaye de discuter avec lui pour voir dans quelle mesure il va, au contraire, enrichir mon domaine et m'apporter, même y compris, des possibilités que je n'aurais même pas imaginées, et vice-versa, évidemment. C'est-à-dire que c'est un dialogue, il s'agit d'un dialogue. Alors, bon, ça donne des choses après, c'est en Finlande, hein, c'est un peu différent, mais grosso modo, quand même, les gens, ils habitent au bord de ça, donc ça, c'est la zone Natura 2000, là-dedans, il y a les oies et tout ça. Donc, devant chez eux, ils ont ça. Bon, oui, le fait que ce qui est pratique là-bas, c'est que l'hiver, c'est glacé, donc tout d'un coup, il y a 1 000 hectares d'espace public dispo, donc ça, c'est. Donc, les gens en profitent, ils vont faire du ski, de la marche, tout ça. Et ça donne ça, c'est-à-dire que là, vous voyez des gens qui font, on voit pas grand-chose, hein, vous voyez des gens qui font du vélo, et les petites taches, là, c'est des oies, c'est-à-dire vous avez des milliers d'oies sauvages qui sont en cours de migration, hein, qui se préparaient pour partir, c'était au mois de septembre, au milieu des gens qui sont en vélo, et ça pose problème à personne, et certainement pas aux écologues, en gros, qui ont participé à ce travail mutuel. Bon, ça, c'est à Berlin, enfin, bon, après, on montre des images, forcément, pour essayer de faire comprendre aux gens que c'est possible, quoi. Ça, c'est Berlin aussi. Ça, c'est Berlin aussi. Les nouveaux quartiers de Berlin, sur le Berlin-Est, Treptow. Bon. Tout ça pour dire qu'à Nantes, on est quand même dans ce paysage potentiellement de bord de Loire, qui est absolument magnifique, mais où les arbres qu'on voit, en fait, ils font 6 mètres, quoi. 10 mètres, 15 mètres maximum. Et puis derrière, c'est les boîtes avec les parkings de là, aux chaussures, quoi. Alors, ils ont fait quelques petites opérations. C'est une opération de logement social au bord de la Loire, en zone inondable, avec un rez-de-chaussée surélevé, très très belle, très simple, très modeste. C'est pas moi qui l'ai faite, hein, c'est simplement, faut s'appuyer sur les savoir-faire, les choses qui existent. Et donc, ce qui existait avant. Et le travail qu'on a fait, c'est qu'au début, c'était interdit de construire, et donc il y avait une sorte d'opposition de l'État, d'opposition entre les services de l'État, qui sont non seulement, en fait, qui ont un rôle régalien, c'est-à-dire qui ont un rôle de respect de la loi sur la question de l'inondabilité, en disant non, c'est pas possible, c'est-à-dire de réglementation, finalement, mais qui sont aussi des experts, des vrais experts, en fait, je veux dire, qui ont une vraie compétence sur la question hydrologique, des compétences de modélisation, mais aussi des compétences très fines comment dirais-je, d'évaluation du phénomène, de comment ça fonctionne, de la fréquence, de l'effet de la marée, etc. C'est très complexe. À Nantes, on a des effets conjoints entre la marée, le vent, la Loire, etc., qui rendent les choses un petit peu plus complexes que dans un régime, je dirais, où la mer n'a pas d'influence. Donc, nous, on est allés vers eux en leur disant vous êtes des experts, nous, on peut faire un projet totalement adaptable, mais il faut qu'on travaille ensemble pour voir dans quelle mesure votre expertise, finalement, aide à penser une urbanisation, parce qu'il y a d'autres critères. Alors, pourquoi on a dit ça? Parce qu'en gros, c'est une astuce, je dirais, un peu stratégique, mais en disant la question de l'inondabilité, ça correspond à une politique publique de l'État, mais l'État n'est pas schizophrène, et les politiques publiques de l'État doivent être complémentaires, c'est-à-dire transversales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas opposer, par exemple, parce que sous prétexte que ça serait inondable, on ne peut pas construire, alors on va construire sur les terres agricoles, parce que comme la métropole croît, s'il n'y a pas de terre à bâtir, alors à ce moment-là, on construit sur le plateau, effectivement, ce n'est pas inondable, mais par contre, c'est là où il y a les meilleures terres. Et donc, en gros, par exemple, on déroge à ça. Ou bien, on ne se met pas en centre-ville, et si on ne se met pas en centre-ville, les gens vont prendre leur voiture, donc on va avoir des transports qui ne vont pas être décarbonés, en gros, enfin, faire du vélo quand on habite à 15 km, ça devient plus compliqué quand on est à 3 km du centre-ville, ou de l'université, etc., etc. Et puis, dernier point, la biodiversité, par exemple, c'est aussi une question des politiques publiques, c'est-à-dire qu'on leur parlait à eux en tant qu'État, pas simplement en tant que service hydrologie et inondation, mais en tant qu'État, c'était avec le directeur départemental des territoires et de la mer, DTM, le directeur lui-même, c'est intéressant, c'est à un moment donné, il faut des gens qui sont capables, c'est un ingénieur, mais capable d'avoir une vision transversale, parce que lui, il est chef de tous les services, donc il sait très bien qu'il a un service qui s'occupe de biodiversité, et il a aussi un service qui s'occupe d'inondation, mais voilà. Et ensuite, en discutant de cette manière-là, on s'est aperçu que c'était possible ils étaient possibles de saisir la question de manière positive. Et donc c'est eux et nous, c'est pas tellement nous, c'est les deux, en fait, on a travaillé sur un projet, je vais aller vite. Alors sur la question de la biodiversité, par exemple, bon, actuellement la trame verte, c'est ça. On voit que la plus grande partie de la continuité verte, là, c'est de la zone inondable correspondait à une ancienne partie basse, là, le long de cette route, qui est très belle, qu'on garde, évidemment. Et puis là, il y a le bord, mais sinon, tout le reste, c'est de l'asphalte. Donc, de dire, par exemple, qu'un projet permettait de désasphalter et de rendre, de tripler la surface, ou doubler la surface des zones plantées en pleine terre, et de refaire des continuités entre les parties vertes qui sont ici, celles qui sont là, donc de travailler sur un réseau, sur une forme urbaine plus propice, en fait, à la question, aux questions de biodiversité, par exemple, qui était aussi un objectif de politique publique, ça permettait de gagner. Enfin, le projet enrichit cette terre. Après le projet, c'est mieux qu'avant, quoi, la situation, du point de vue de la biodiversité. Donc forcément, parce qu'aujourd'hui, les mecs qui font des boîtes, c'est pas parce qu'il y a eu quelqu'un au sommet de l'État qui a dit que c'est important la biodiversité qu'ils vont se mettre à planter des arbres, enlever leur parking. Le centre Leclerc, là, il va pas tout d'un coup devenir. Il y a que s'il y a un projet et qu'il va à un autre endroit, sur son terrain, il se passe autre chose, etc., que la situation peut s'améliorer. Donc, encore une fois, en gros, cette question qui est fondamentale aujourd'hui, qui est, il n'y a pas d'absence de diagnostic, le diagnostic est très clair. Il y a des politiques publiques qui sont, dans leur globalité, plutôt assez volontaires, on va dire volontaristes, enfin, en tous les cas, un certain nombre de directions qui sont... Mais dans la réalité, la complexité technique des processus réglementaires, projectuels, contrôle, niveau d'expertise, etc., fait que les choses s'opposent les unes aux autres, quoi, au lieu de se rencontrer. Cette question-là, moi, je trouve, ça m'arrive tout à l'heure par les écoles d'ingénieurs, je ne sais plus qui en parlait, c'est toi qui parlais d'ingénieurs. C'est un enjeu considérable, en fait, dans les écoles d'ingénieurs, qui, à mon avis, n'est pas identifié. C'est encore plus en retard que les écoles d'architecture. Effectivement, ils ont rajouté un chapitre développement durable au cours sur les transports, mais sur cette question de comment on travaille ensemble pour désectoriser la pensée, qui est quand même un enjeu considérable et qui est absent des écoles d'ingénieurs. Il y a un enjeu énorme là-dessus qui mériterait d'être pensé. Et les écoles d'architecture qui avaient ce capital de transversalité sont en train de se spécialiser. C'est-à-dire qu'en gros, quand on regarde l'évolution des programmes des écoles d'architecture, ça redevient sectorisé. En gros, il y a le mec qui fait du développement durable, le mec qui fait, etc. Alors que une des choses... Donc la tendance en termes de de manière de pensée et de référencement, de manière de travailler, etc., elle est plutôt négative, hein, elle va pas dans le bon sens. C'est bien de... Enfin, en tout cas, c'est mon diagnostic. Voilà. Bon, je vais pas détailler, mais disons, il y a un travail très très précis qui a été fait, et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est des formes urbaines très provisoires, parce que c'est, la question, c'était plutôt de faire une étude très en amont, finalement. Les croquis, là, un peu artisanaux, mais pour montrer qu'on pouvait avoir un rapport au paysage aussi, que ça amenait quelque chose, en fait, ce rapport à la zone inondable, sachant que, je vais aller un peu plus vite, une des questions, par exemple, qui a été posée, ce qu'on voit ici en rouge, c'est de dire, c'est pas grave si c'est inondé, à condition que les logements ne le soient pas, et qu'on puisse sortir à sec de chez soi, à pied, en cas de crue. Parce que les crues nantaises, c'est des crues lentes, avec une montée progressive, qui est des crues prévisibles, et des crues relativement longues. Ça peut durer 10 jours. Bon. Donc, entre la crue et la décrue. Donc, c'est des phénomènes particuliers. Toutes les crues ne se ressemblent pas. Ce qui veut dire que 10 jours, c'est beaucoup, quoi. En termes de mobilisation, disons. C'est-à-dire que si on est obligé de partir de chez soi, parce qu'on ne peut plus accéder chez soi, ou parce qu'on y va en bateau, c'est un peu compliqué. L'idée, qui est une question politique, hein, c'était de ne pas mobiliser la sécurité civile pendant les crues, donc que les gens puissent aller au travail ou à l'école à pied, que les services de secours puissent accéder au logement, etc. Donc d'avoir une certaine autonomie, disons, par rapport aux 7000 logements, là, c'est, enfin sur ce secteur il y a un peu moins, 4000, potentiellement habités à cet endroit. Ce qui est important, c'est que du coup, ça oblige à faire un travail très très fin de topographie, de manière à ce que tous ces chemins rouges là, qui sont à sec, en période de crue, avec les logements reliés avec, donc il y a un peu deux accès au logement, il y a un accès dans l'eau, puis un accès à sec, un accès voiture dans l'eau, piéton aussi, évidemment, dans la vie quotidienne, mais il y a un accès piéton, qui fait qu'on coupe, on ne voit pas grand-chose, mais je vais vous montrer les images peut-être plus explicites directement. Il y a des levées de terre et des creux, enfin, qui sont compensés par des creux. Bon, toutes ces images-là, on a fait des dizaines et dizaines de coupes extrêmement précises, en tenant compte de la cote calculée de l'eau. Donc ça s'est fait de manière très très précise, ce qui est une manière un peu différente de faire de l'urbanisme. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a fait de l'urbanisme en plan, en faisant des schémas, quoi. Donc là, c'est bien de l'urbanisme, hein, c'est pas la maîtrise d'œuvre, on est très très loin de l'opérationnel, on est très très en amont, là, on est en train de faire un programme, quoi, en gros, de se dire combien on pourrait faire de logements, est-ce qu'on pourrait faire du commerce comme ça, etc., qui oblige, en fait, l'équipe d'urbanistes à avoir un niveau de précision, presque au niveau d'ingénierie de l'espace public, au centimètre près, quoi, en gros, pour faire la faisabilité de tous ces ouvrages d'infrastructures, avant même qu'on soit capable, après, de dérouler une chose très, très concrète, préopérationnelle. Donc, c'est aussi une méthode de travail, je dis ça parce que c'est une méthode de travail qu'on est obligé, nous, de réinventer, notre propre méthode de travail. Comment être précis au centimètre, alors qu'on fait, en gros, d'habitude, ce qu'on faisait avec des patates, quoi, des schémas, quoi, en disant tant de logements, sachant que tout va être refait, après. Parce que forcément, quand on va rentrer dans l'opérationnel, tout sera refait. Après, c'est les images de référence qui servent simplement. Ça, c'est un parc qui a été fait à Saragosse par Christine Dalnoki, où finalement cet imaginaire de la levée de terre, de la rampe, du fossé, de la noue, de la digue, etc., ça fabrique aussi un paysage bien singulier, identitaire. On va dire identitaire pas au sens, parce que je sais que, ben, en tous les cas, qui caractérise le lieu dans lequel on va habiter, qui lui donne sa qualité finalement, et qui peut donner envie d'y habiter. C'est-à-dire prendre en gros l'idée, c'était interdit de construire, on a traité la question de l'eau, et parce qu'on a traité la question de l'eau, on va obtenir un paysage qui va donner une qualité au lieu qui est complètement inédite et qui fera qu'à Nantes, il y aura un endroit qui est complémentaire de ce qui se passe sur l'île de Nantes, qui est complémentaire de ce qui se passe dans le centre de Nantes, qui est complémentaire de ce qui se passe dans le nouveau quartier de la gare, etc., qui est différent, et dont le caractère vient précisément du fait qu'on a travaillé sur une mobilité. Donc non seulement c'est pas emmerdant, non seulement en fait c'est pas une contrainte, mais en plus c'est une ressource, c'est-à-dire qu'en plus ça donne quelque chose de considérable, qui est la qualité du lieu, tout simplement, potentiellement, hein, parce qu'évidemment on ne sait pas encore comment ça va être. Bon, la question de pervérité, je veux pas... Donc ça oblige aussi, je parlais là tout à l'heure de l'infrastructure, mais y compris sur les bâtiments, à travailler sur des dispositifs, alors ça c'est en croquis, mais on travaille de manière plus précise, sur qu'est-ce qui se passe au rez-de-chaussée avec des variations possibles en termes de programme, et en termes de configuration, de manière à pas avoir que des immeubles dont le rez-de-chaussée est occupé par les parkings, d'avoir une sorte de variabilité du rez-de-chaussée, sachant que dans des quartiers, dans la plupart des quartiers aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de bâtiments qui existent, hein, mais il n'y a pas des commerces dans tous les rez-de-chaussée, donc si ce n'est pas des commerces, c'est du logement, mais ça peut être aussi des équipements. Vous avez vu apparaître de crèches ou quelque chose comme ça, des petits équipements. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'eau, qu'est-ce qu'on peut pas mettre dans l'eau? Une salle de danse, ça peut être dans l'eau. Une maison d'association, ça peut être dans l'eau. Une crèche, ça peut pas être dans l'eau, etc. Donc, c'est ces questions-là qui permettent, à un moment donné, de savoir qu'est-ce qui va se passer quand on se promène dans cette ville, dans ce quartier. Bon, ça, c'est des croquis qui ont plutôt vocation à faire comprendre aux techniciens, aux élus, etc., que le dispositif fonctionne. Ça reste complètement ouvert. J'espère que ça ne sera pas ça. Et ça permet de. Ça, là encore, en termes de méthodologie, c'est très. On travaille beaucoup sur des grandes échelles comme ça. Comment, à un moment donné, on arrive à convaincre à partir d'images qui ne sont évidemment pas les images définitives, en laissant le projet complètement ouvert. Ça veut dire que l'image produite n'est pas. Il n'y a pas la question de la forme est complètement secondaire. La question du dispositif, par contre, d'ensemble, la topologie, presque, non pas de la géométrie, mais de la topologie des choses, le rapport des choses les unes par rapport aux autres, est par contre défini. Et c'est vrai que comment être précis tout en étant ouvert, c'est d'un point de vue, je dirais même scientifique, général, c'est une vraie question qu'on peut partager avec les ingénieurs. Même pour les ingénieurs, par exemple, c'était intéressant, là. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris aussi que c'était pas ça qui serait fait. Ça serait autre chose, mais que par contre, le test, il méritait d'être précis, et qu'ensuite, on avait les moyens de revenir et de modifier les choses. Le projet ouvert, néanmoins précis. Voilà. Puis la deuxième chose dont je veux parler, peut-être je vais vous m'arrêter si je. Donc là, j'ai mis deux exemples, mais c'est une deuxième chose qui nous obsède, nous, dans tout ce qu'on fait. On a parlé des majors tout à l'heure. C'est comment on construit, avec quel savoir-faire, quelles ressources on sollicite, et quelle est notre responsabilité de concepteur dans un réseau complexe où il y a des élus, des entreprises, des ingénieurs, les habitants, etc. C'est toujours très compliqué, cette histoire de projet, de ville. L'architecte, finalement, est qu'un des. Moi, je pense que l'architecte, c'est certainement pas l'acteur majeur, mais c'est un des rares qui est capable de faire des liens. C'est-à-dire de dire entre l'entreprise et l'élu, de dire il y a un rapport. Beaucoup plus, encore plus que la mise en forme, je trouve. Enfin, en tout cas, il faut qu'on cultive ça, parce que c'est là, moi, je pense que là où on est relativement utile, sachant que chacun, après, dans le cadre de ses compétences, a son apport particulier. Alors là, j'ai mis deux exemples qui, bizarrement, on a l'impression que ça n'a rien à voir, mais ça a quand même à voir. C'est-à-dire que Guéry, il a quand même construit son truc, c'est pas pour faire l'apologie de Guéry, parce que Dieu sait, je m'en défends, mais en tous les cas, sur ce projet-là de Guggenheim, il a fait ça dans une ville de construction navale, une ville de métallurgie, de sidérurgie, et en fait, les photos du chantier sont plus éloquentes que les photos de l'objet fini, c'est-à-dire que c'est fabriqué avec la ressource de la côte basque, qui est la côte de la métallurgie en Espagne. Et cet objet en métal extrêmement complexe, c'est la rencontre entre une ingénierie de pointe qui était celle de l'aéronautique, d'assaut au système en l'occurrence, et un savoir-faire local de soudeur, de métallourg en gros, qui était celui de la région. Bon. Et à une autre échelle, c'est la même chose que le travail de Caminada, John Caminada, qui est un architecte des Grisons, un architecte de haute montagne, qui travaille qu'avec des scieries. En gros, il connaît l'arbre, quoi. Enfin, il connaît l'arbre qu'il va couper. Enfin, il va voir le scieur, il va voir la scierie, et quand il fait un objet. Je prends juste un petit exemple. À l'occasion d'un voyage que j'avais fait avec Chris Younes, d'ailleurs, au Liban, je regrette qu'elle ne soit pas là, je pensais la voir aujourd'hui. Sur ces questions, parce que quand je dis qu'on s'intéresse à la question de la fabrication, c'est pas tant. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que la question du circuit court, c'est-à-dire le fait que la ressource, elle est forcément proche. C'est plutôt l'équilibre entre ce qui vient de loin et, en gros, l'équilibre raisonnable, économique, entre ce qui vient de loin et ce qui vient de près. Il ne s'agit pas d'être comme une sorte de manière un peu naïve, me semble-t-il, et peut-être un peu trop rapide, de dire la mondialisation, c'est n'importe quoi, il faut absolument les circuits courts. Dans la mesure du possible, oui, mais tout ne vient pas. Enfin, le métal, par exemple, il ne vient pas toujours d'un côté. Parfois, le métal, c'est plus intelligent et plus économique d'utiliser du métal que du béton. Le béton est plutôt un matériau local.
par le Sidon, le gravier et le sable, ça vient d'à côté, ça vient d'un rayon de 30 km, 20 km.
Donc, pour rappeler quand même que là, je m'en avais vu, c'est 350 après Jésus-Christ, les documents, je ne sais pas où je les ai pris, mais là, c'était déjà les flux de matériaux et les flux de savoir-faire, c'était déjà quelque chose d'absolument considérable. Sur la Méditerranée, pareil. Ça, c'est des choses que j'ai prises dans les documents de géographie sur l'histoire, en fait, l'histoire des ressources. Et quand on était allé visiter cette Baalbek, là, le temple romain, donc c'est l'Empire romain au Liban, donc c'est déjà tout un système, déjà une sorte d'impérialisme. Mais néanmoins, il y a du lieu, et il y a du local, et puis il y a un système, quoi, même plus général. Et en fait, on s'est aperçu que ça nous a été expliqué de manière assez fine, que le temple qui est construit, il est construit sur des restes cananéens, avec une carrière qui est celle-là, où il y a de la pierre, il y a un personnage là, qui est debout, là. Donc ça, c'est des pierres qui doivent faire, je sais pas, 400 tonnes, qui font 20 mètres de long, par 5 mètres, par 4 mètres, des choses absolument considérables, qui sont à 1 km, et qui servaient de base, vous voyez, la carrière est là, et la carrière ici, et temple ici, donc il y avait un chemin qui existe encore. Hein. Ils amenaient les pierres là, sur de la boue, sur de l'argile, ils poussaient les pierres, alors, évidemment c'était avec des esclaves, hein, c'était pas très friendly, je veux dire, du point de vue social, mais d'un point de vue de la ressource, vous voyez, les pierres, ça c'est des cèdres du Liban, là, adultes, hein, donc à côté de la pierre, là, où là, il y a une pierre ici, comme ça, là, et là, un personnage. Donc c'est, ça, c'était la base de la ressource. L'autre ressource, il y avait deux choses. Sur des aimants très singuliers, très performants, qui étaient les colonnes, en fait, c'est de la diorite qui vient d'Égypte, donc ils utilisaient leur réseau d'exploitation, c'est pas trop loin, mais c'est quand même déjà loin, c'est des pierres très lourdes, qui sont transportées spécifiquement, parce qu'elles ont une qualité particulière. Et le tout venant, en fait, c'était des pierres préfabriquées, de petite taille, manipulables par un homme, sans avoir besoin de centaines d'esclaves, qui étaient préfabriqués dans le Latium à côté de Rome, qui chargeaient les bateaux en lest. Ensuite, les bateaux à vide, en fait, allaient à Tyr, et se chargeaient, eux, de choses qui venaient d'Asie, en général, pour délester leur lest. Et le lest, en fait, utilisé comme la pierre utilisée comme lest, était ensuite utilisée comme matériau de construction. Donc on avait trois choses. On avait la ressource sur place, la chose très pointue qui venait d'un lieu bien précis, et puis une chose industrielle, on va dire, dans un rapport qui aujourd'hui, pour grande part, fonctionne comme ça. La pierre qui est importée en France, par exemple, qui vient d'étranger, elle est souvent utilisée comme lest dans les bateaux. Donc tout ça pour dire que, quand même, cette question de la ressource, c'est sans dogmatisme, c'est-à-dire sans dire forcément que la chose doit venir d'ici. En tous les cas, ça doit être une question. C'est-à-dire, ça ne peut pas ne pas être une question. D'où ça vient, pourquoi ça vient de si loin? Ok, ça vient de si loin parce que, est-ce qu'on peut faire autrement? Non. Est-ce que c'est bien de le faire? Oui, d'accord, etc. On n'est pas seul au monde, donc de temps en temps, il y a des choses qui viennent de loin. Par contre, de temps en temps, on peut avoir des choses qui viennent de près et il faut absolument le favoriser. Cette question-là, évidemment, c'est important de la poser parce que dans le circuit de production habituel, elle n'est pas posée, très mal. Alors bon, avant Gilles Perraudin, avec son pont du Gard et sa pierre du Gard et tout ça, là, il y a quand même, alors je remonte des exemples, il y a Hudson, par exemple, qui est un architecte durable, danois, donc je plaisante, qui, quand il a fait ses maisons, il a fait des maisons, des villas au Baléa, a réactivé, y compris réactivé, il a utilisé une carrière locale, on voit la photo ici, mais il a réactivé des modes de savoir-faire et des modes de production, notamment une usine qui fabriquait des boutins en briques. Donc il a eu un travail critique, très, très à l'écoute de qu'est-ce qu'il y avait sur place, de comment je fais ça, sachant que c'est le même bonhomme qui, au même moment, faisait l'opéra de Sydney avec des coques en béton. Donc c'est pas contradictoire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la question de la juste mesure, tellement absente aujourd'hui dans le monde de l'architecture, d'arriver à se libérer du dogme pour juste poser la question de la situation, mais dans cette situation, qu'est-ce qui est le plus raisonnable de faire, qu'est-ce qui est le plus juste de faire, et se réinventer ses outils à chaque situation, de manière à ajuster finalement les moyens qu'on met en œuvre avec le contexte et l'intelligence du contexte. Et dans ce cas-là, une chose importante chez Ouzon, on le voit là sur son échafaudage, c'est le lien qu'il crée avec le milieu local de production. Voilà. Pour faire des choses un peu... à gauche, c'est Romain, à droite, c'est faire un bouillon. Des choses un peu comme ça, intemporelles. Alors juste pour expliquer, nous, on a fait ça, dans beaucoup de projets, mais essayer de mettre en situation une ville, qui est un maître d'ouvrage, c'était la ville en l'occurrence. On a fait tous les espaces centre-ville, c'est la place de l'hôtel de ville, on voit rien, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la manière dont ça s'est fait. On a fait ce projet dans des conditions économiques compliquées, c'est-à-dire en gros, la ville Saint-Etienne n'est pas riche. On fait un espace public à Bordeaux, le budget triple, en fait. C'est quand même un rapport de 1 à 3, c'est pas une blague, quoi. C'est-à-dire, pour faire... Là, c'est la place de la mairie, ils ont 3 fois moins d'argent que pour faire une place de marché dans le centre historique de Bordeaux, quoi. Donc, une ville qui a une économie compliquée, mais qui a quand même dégagé 10 millions d'euros pour faire tout son centre-ville, ce qui n'est pas rien. Et il fallait refaire ces places qui étaient des restes, c'est sur un parking la place, là. C'est pour ça qu'il n'y a pas là, il y a un parking dessous, des années 70 où on avait fait un parking dessous, des voiries tout autour, enfin qui était un peu mangé par la voiture, avec peu d'argent. L'essentiel des sols s'est fait en béton, et ensuite on a fait un travail, tous les éléments, dans un projet d'espace public, il y a toujours des éléments de mobilier, on va dire, de fabrication, une fontaine... des mâts d'éclairage, des bordures, des trucs pour les bus, etc. Des éléments d'accastillage ou de complément qui représentent en général un budget assez important, un tiers du budget ou en gros. La question de comment on les fabrique, soit c'est des éléments de catalogue qu'on prend sur un catalogue et qu'on pose, soit on se demande comment on les fait. Alors ce qu'on a fait dans ce cas-là, on voit ici, c'est une fontaine et des mâts en métal. On s'est dit, cherchons avec la ville un moyen pour que ce soit des entreprises locales qui fassent la métallerie. On va faire des objets en métal, exprès, pas en bois. On les fait en métal. L'histoire industrielle de cette ville, c'est le métal. L'actualité industrielle de cette ville, c'est le métal, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises très dynamiques. Ce n'est plus la sidérurgie lourde d'il y a 50 ans, mais on a beaucoup d'entreprises de tôlerie, de découpage de tôle, de traitement de surface de métal, de soudure, etc., de plieurs, de plieuses, enfin, toute une technologie, avec un réseau d'entreprises en plus qui travaillent à l'international, d'ailleurs pour la NASA par exemple, pour des choses de pointe, pour le CNES, sur des objets avec... type mouton à 5 pattes, donc ils sont aussi à la marge, ils sont à la marge du système de production, c'est-à-dire qu'ils savent faire en réseau, par leur intelligence collective, des choses que des grosses boîtes qui ont des énormes outils de production ne savent pas faire, que ArcelorMittal ne sait pas faire, par exemple. Parce qu'en gros, ce qui les intéresse, c'est de la tôle forte, des millions de tonnes de tôle forte, c'est quand il y a un objet un peu compliqué qui mélange des technologies particulières, c'est typiquement ce qui peut arriver pour un train d'atterrissage d'avion, pour un truc de satellite ou pour des choses très pointues, donc des fortes valeurs ajoutées. Donc on est allé voir ces entreprises qui ne font pas de mobilier urbain pour les associer. Et alors ce qui est intéressant dans le processus, parce qu'à la limite on se dirait c'est qu'on l'a fait avant de dessiner. C'est-à-dire qu'on est, alors je ne sais pas si j'ai une carte là, voilà, bon je ne vois rien, mais c'est pas grave. On a fait, au début du projet, on a visité 25-30 entreprises, donc en commençant par les carrières, mais aussi toutes les... Donc on est allé voir les gens dans leurs ateliers, parfois des assez grosses entreprises, parfois des petites entreprises de taille modeste. J'ai une photo là, voilà. Donc à gauche, c'est le robot commande numérique avec je ne sais pas combien d'axes de liberté là, qui fait enfin, le maximum de technologie. À droite, c'est la vieille presse qui date des années 50. Et donc on avait ces deux choses. Donc en discutant avec les gens, concrètement, discuter avec les gens, ça veut dire les écouter, savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils savent faire, quelles sont véritablement leurs connaissances. Donc ça veut dire discuter avec le mec qui plie concrètement la tôle pour essayer de voir à peu près c'est quoi le panel. Et à partir de là, on a fait le dessin. C'est-à-dire qu'on a fait le dessin à partir de ce qu'on savait possible, disponible dans les entreprises.
Et en parallèle avec la maîtrise d'ouvrage, on fait un truc qui doit être complètement dans la marge des marchés publics, mais légal, je précise, qui est que la ville de Saint-Étienne a fait un appel d'offres pour un consortium industriel, bureau d'études techniques, métallerie, un appel d'offres auquel ont répondu ce groupement d'entreprises qui ont été lauréats, parce que c'était les mieux placés par rapport au cahier des charges. Et donc on a travaillé en parallèle, chose qu'on ne fait jamais en marché public, comme quoi il n'y a pas que le PPP comme solution, où l'architecte dessine en même temps que l'entreprise conçoit. Et donc un travail de, entre guillemets, conception-construction, tout ça dans la règle des marchés publics, assez intéressant, qui a permis, en plus, je dirais, de réinjecter, c'est-à-dire les 3 millions que la ville a mis dans ces différents objets, ils sont réinjectés dans l'économie locale, puisque ça finit en salaire chez les gens qui sont, en fait, qui habitent, les ouvriers, là, ils sont dans le coin. Quoi. Et pour nous, cette question-là, elle n'est pas... Bon, ça, c'est la station de la Fontaine, des photos. Fontaine, c'est fait par des chaudronniers, bon, la rivière, la nuit, peu importe. C'est chaudronniers. Donc ça, c'est juste une parenthèse, mais la fontaine, en fait, c'est à la mode depuis je sais pas combien de temps, de faire des fontaines qui sont dans le sol, là où on marche dessus, dans le béton, dans la pierre. Et on a voulu refaire une fontaine avec une vasque. En fait, la fontaine vasque, c'est un peu ce qu'il y avait chez les morts, ou morts M-A-U, pas M-O-R. Avec en plus l'eau et la matière, c'est de l'inox, là, mais la matière qui donne une lumière particulière à l'eau qui brûle. Donc la vasque qui était en céramique chez les morts, mais là qui est en inox, avec cette idée d'un bel objet où l'eau est mise en scène et qui n'est pas forcément le grand bassin ou la chose qui vient du sol, bon, etc. Et puis ces mains de verre qui sont une collaboration entre, on voit ici, là, entre des tauliers, soudeurs, où il y a une ingénierie assez sophistiquée, c'est des mains qui font 10 mètres de haut, et là c'est juste lacé avec quelque chose qui est gros comme le petit doigt là, pour contreventer, parce que 10 mètres c'est très souple, il ne faut pas que ça bouge, parce qu'en plus il y a du verre qui est là, donc il ne faut pas que ça gigote. Donc la question d'ingénierie est assez fine, même si ça a l'air tout à fait banal, donc c'est deux lames d'inox avec ce lassage, et deux lames de verre soufflées à la main, un verre extraordinaire, qui est une entreprise à côté, à 20 km de Saint-Étienne, qui est le verre Saint-Jules, qui est... Il y a deux entreprises en Europe qui font encore du verre soufflé, donc c'est des gars qui apprennent ça quand ils ont 18 ans, qui sont opérationnels quand ils en ont 25 et qui arrêtent à 45 parce que c'est un travail absolument infernal, mais ils sont d'une fierté, enfin c'est magnifique, c'est un verre absolument extraordinaire, ça n'a rien à voir avec, je veux dire, il y en a, ils mettent du plastique sur du verre pour faire du verre coloré, c'est un truc, une fois qu'on a vu ce verre-là, on a envie de tout sauf... c'est une autre dimension... avec un savoir-faire derrière qui est absolument... ça date de plus de 1000 ans, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui est transmis de génération en génération et qui est associé là. Et donc, c'est l'éclairage... On voit rien, c'est moche, mais... alors, évidemment, ça marche deux jours. Là, bon, on voit la dame avec ses chaussures assorties qu'on n'avait pas prévues, mais qui marche... Donc, ça marche avec le soleil, ça marche évidemment la nuit, il y a de la lumière dedans et ça fait des sortes de... Ça éclaire une partie de la place. Donc... On voit bien que pour nous, il y a une question de dessin, évidemment, de design, on fait notre métier de concepteur, mais c'est d'abord la question de comment c'est fait, pourquoi c'est là qui nous intéresse, parce que finalement, les architectes, c'est pas tellement la question. Moi, je préfère qu'on se rappelle que cet objet, il est fait par les verriers à côté, le taulier en face, et puis qu'à la limite, on ne sait pas qui c'est l'architecte, mais ça, c'est pas très grave. C'est quand même la place d'hôtel de ville. Donc, tout ça pour dire que ce qui est important... Pour moi, pour nous, parce que c'est notre équipe, dans l'ensemble, ce qui est vraiment essentiel, et on parlait de liens tout à l'heure et d'expertise, de partage d'expertise, c'est beaucoup plus susciter des occasions de rencontre, enfin des rencontres qui deviennent inédites parce que le monde va assez mal de ce point de vue-là. C'est-à-dire la question notamment contractuelle fait que la distance entre les parties contractantes, comment dirais-je, s'étire sans cesse avec de plus en plus d'avocats interposés entre les deux parties.
et qui dépersonnalise en fait et déshumanise en fait le lien contractuel entre quelqu'un qui dessine, quelqu'un qui fait, quelqu'un qui paye, quelqu'un qui dessine, quelqu'un qui paye, quelqu'un qui fait. En gros, le triangle maître d'ouvrage, ouvrier, on va dire, entreprise et concepteur en général, ce triangle-là fonctionne mal. Parce qu'il y a une épaisseur technico-juridique qui s'interpose entre les gens. Donc nous, ce qui nous intéresse à chaque fois, c'est de susciter des rencontres et de faire en sorte que les... Et ça, pour moi, c'est une forme d'écologie au sens noble du terme. C'est-à-dire que je ne sais pas quel est le bilan carbone de mes mains, là. Probablement pas très bon, hein, parce que l'inox plus le verre... Mais bon, ça vient quand même... En tout cas, c'est fabriqué à côté. Même si l'inox vient probablement d'Indonésie ou de je ne sais pas où. Ça c'est tout à fait probable, mais il y a la question culturelle et sociale qui est très importante, qui est de dire qu'à un moment donné, dans un espace public emblématique, ce qui est d'abord mis en scène, enfin, ce qui est d'abord présent, c'est le savoir-faire du voisin, quoi, du beau-frère, quoi. Enfin, en gros, de quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément personnellement, mais qu'on pourrait connaître, voilà, et qui est le souffleur là, ou le souleur. Et je pense qu'on n'est pas obligé de faire ça, ça demande beaucoup plus d'efforts, évidemment. Hein. C'est beaucoup plus facile de faire un CTP et Bouygues répond et Bouygues fait ce qu'il a envie de faire. Donc c'est plus compliqué, c'est pas forcément moins cher d'ailleurs, mais il vaut peut-être mieux que le gros de l'argent public aille dans des entreprises locales plutôt que dans les marges et les commerciaux de sociétés qui sont plutôt délocalisées, enfin, dans le sens y compris financier du terme. Je ne pense pas que les entreprises avec qui on a travaillé aient des filiales aux îles Caïmans, ce qui n'est pas le cas de Vinci, donc etc. Donc on est dans un travail d'interrogation du mode de production où on joue simplement notre rôle d'architecte. Hein. J'ai fait exprès de montrer les images d'Hudson avant parce que je me méfie aussi des gens qui arrivent et disent « Vous voyez comme on est bon, on a tout inventé, c'est génial. » En fait, y a quand même, on est dans un héritage, quoi. Enfin, moi, je revendique l'idée qu'on fait, en gros, ce qu'on devrait faire, qu'on n'aurait jamais dû abandonner de faire, plutôt, d'espèce d'attention aux choses et d'attention aux gens et aux autres compétences qui devrait être l'ordinaire en fait, d'un métier qui s'est un peu perverti, malheureusement, en tous les cas, dans certaines situations. Voilà. Là, par exemple, le monsieur qui est là, il est tout proche de la retraite, ça fait 50 ans qu'il soude, il doit avoir 60, peut-être pas 50 ans, mais ça fait 45 ans qu'il soude, quoi. Il est 45 ans de soudure, donc forcément que... Quand on discute avec lui, c'est lui qui nous apprend la soudure, c'est pas le contraire. C'est-à-dire qu'on ne se met pas dans une situation où, surtout presque en architecte, on sait faire et je vais vous expliquer comment souder. Non, en fait, vous savez forcément mieux que moi. Par contre, moi j'ai des questions, comment on les résout? En l'occurrence, là, c'était la question comment, quand on soude de l'inox, c'est très compliqué, ça se voit à travers. C'est-à-dire que ça, une modification de la structure du métal qui fait que de l'autre côté de la soudure, il y a une tache qui apparaît. Donc comment on fait pour éviter ça? Donc ça, c'était la question qu'on lui a posée. Mais c'est lui qui a trouvé la réponse, évidemment. Donc il y a une question posée, une réponse. Mais cet échange-là, c'est quand même très riche d'avoir l'occasion de ça. Enfin, moi, fabriquer ça, en fait, c'est l'occasion d'être optimiste. Ça, c'est les souffleurs. Donc on voit que c'est pas un métier... En plus, l'air, il y a 1200 degrés, là, donc il faut souffler, il ne faut pas aspirer. Donc ce n'est pas de plaisanterie. Là. C'est quand on souffle et quand on lâche le truc, on enlève la bouche. Sinon, ça peut y avoir... C'est pas de la mentale ou quoi. Donc, je termine sur cette image. C'est simple. Donc, vous voyez, c'est deux exemples, plus comme prétexte pour... pour mettre en scène comment, en fait, dans un... Moi, ce métier ne m'intéressera plus, indépendamment de la quantité de commandes, de l'intérêt des commandes, quoi que ce soit, ça commencera à plus m'intéresser quand je ne serai pas capable, avec mes collaborateurs et avec les gens avec qui je travaille, les ingénieurs, les entreprises, de créer des conditions expérimentales de rencontres de ce type. Que ce soit avec les gens de la DDTM. En fait, les gens de la DDTM, ils sont venus nous voir après, à la fin, là, quand on est... Parce que le PPRI, c'est un truc qui est signé par le préfet, c'est pas une plaisanterie. C'est-à-dire qu'on a fait le PPRI ensemble. En gros, le PPRI, plan de protection contre les risques d'inondation, je précise parce que des fois les acronymes, on l'a fait ensemble et à la fin ils sont venus nous voir en me disant c'était génial pour nous parce que au lieu de faire un travail de censeur, on a fait un vrai travail d'ingénieur, on a donné de nous-mêmes quoi. Et d'habitude on est méprisé par les concepteurs parce qu'en gros ils ont l'impression qu'on les emmerde quoi. Et donc se mettre dans des situations où on est où on se met en dehors du monde de la production et des autres secteurs d'activité au point d'arriver à des situations même de mépris ou d'arrogance, en fait faut arrêter de bosser si on en est là. Donc moi je le dis là de manière un peu comme ça, parce que ça met une certaine émotion en fait, si ça s'arrête, j'arrête ce métier en fait. Si ce type de relation là c'est pas possible, j'arrête ce métier. Et on est toujours à la marge quand même, parce qu'à un moment donné, le juridique prenant le pas, etc., le juridique c'est quand même dur. Enfin, on peut avoir de très bonnes relations avec un avocat. Moi, quand on a fait un PLU, on a travaillé avec une avocate qui est géniale. Donc c'est pas la question du droit, elle est magnifique. Mais quand le droit n'est qu'un amortisseur, une espèce de chose préventive du conflit qui nécessairement va arriver et qui fait que la distance devient considérable entre les acteurs... On perd pied, l'idée de métier même est niée, la nôtre, mais aussi celui qui est à l'autre bout de la chaîne, que ce soit le maire, le soudeur en question. Donc à un moment donné, il faut arriver à trouver un certain niveau d'informel dans la relation pour fabriquer des choses de ce type qui sont modestes, c'est assez modeste hein, comme fabrication, enfin comme chose, mais... qui pour moi sont de l'ordre quand même d'un combat, enfin d'une bagarre, quoi.